Parce qu'elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné pour prendre des vacances qu'on dit bien méritées. On lui a donné plus de semaines parce qu'elle travaille avec moi, ce qu'on m'a dit.
Quand t'es avec toi,
oui.
Chaque jour,
oui.
Faut des congés à un moment donné.
C'est là. Ce qu'elle m'a dit. Donc, Pascal est absente, puis c'est Mathias. Mathias, que j'appelle ben Thomas. Je trouve
ouais.
Ça va bien.
Je me demandais si tu te trompais ou si tu le faisais par exprès.
Non.
Les deux sont possibles avec toi, honnêtement.
Mais j'aime mieux Thomas, sincèrement.
Ouais. Oui. Tu me débaptises. Tu me déformes. Ouais. Tu me débaptises.
Il y a peut-être ta mère qui n'aimera pas ça parce qu'elle a choisi ton prénom. Là. Mais Thomas, ça te va beaucoup mieux que Mathias.
T'as décidé ça.
Un gars de la Beauce! Un Beauceron, un autre Beauceron, Colin. Ben, c'est le fun. Merci d'être là, mon ami. J'accueille Pat Raymond, un ex-gestionnaire de patrimoine, un ex-vétéran de l'armée canadienne, encore tout musclé. Tu t'entraînes beaucoup, Pat? Hein? Tu fais des push-ups?
Ça arrête pas de bien aller.
Ça arrête pas de bien aller?
Ouais, ben, des push-ups, des chin-ups, des... Ben, j'ai installé une barre transversale sous le porche en sortant de chez moi, là.
Ouais.
Fait que la rue, on le voit pas.
Peut-être. Ça se vend chez Canadian Tire.
Ouais, mais là, moi, j'ai pris un 2x4 sur le camp, là.
OK.
J'ai vissé ça.
T'es un militaire, hein,
ça. Ben, écoute,
ça s'entraîne avec n'importe quoi.
J'étais avec des 2x6 dans l'armée. En sortant, en rentrant des bâtiments, on faisait 10 chin-up. Mais là, je le fais avec le 2x4 sur le camp. Puis là, des fois, je reste comme 10 secondes, tu sais, vraiment. Là, je me mets à shaker. Là, je dis, quelqu'un qui passe dans la rue, qui voit juste le bas d'un corps, qui pendouille en dessous d'un poche. Ça fait trop drôle un peu. Mais je fais ça en rentrant, en sortant. Je fais beaucoup de push-up, beaucoup de. Tu sais, mais à temps perdu, là.
Ouais. T'sais. Est-ce que dans l'armée, est-ce que les programmes d'entraînement sont très, très sévères? Parce que, tu sais, il fut un temps où on nous disait, ben, si tu rentres dans l'armée, il faut que tu sois vraiment en forme. Ça, c'est vrai. Parce que tu as le camp, l'entraînement et tout ça. Mais une fois que c'est fini, puis tu as ta profession, mettons, tu es ingénieur de combat, t'es-tu tenu de t'entraîner constamment?
Ben, t'as quand même des normes à respecter à chaque année. Tu sais, moi, ça fait quoi, une quinzaine d'années là, que je suis plus dans l'armée. C'est sûr qu'il y a des affaires qui ont changé, peut-être des normes qui se sont, amoindries un petit peu. Mais moi, dans le temps que j'y étais, il y avait quand même des normes de push-up, des normes de... Sauf erreur, il y avait chin-up, set-up, puis il y avait aussi les fameux bip-bip, là. Les tests qu'un civil pourrait
c'est
faire aussi pour le cœur, là, des paliers. Il y avait ces normes-là. À l'époque, on... Il me semble que...
Ah oui, c'est ça. T'avais-tu un test chaque année pour savoir si t'étais en shape?
Oui, c'est ça. À chaque année, puis il y avait les... on appelait ça les niaques. Je sais pas si c'est encore comme ça. On allait tirer une grenade, on allait tirer la C7, puis des fois, la mitraillette aussi.
Et vous faisiez tirer des grenades, des vraies grenades?
Non, mais moi, j'ai tiré des vraies grenades, certains.
Faut pas que tu l'échappes.
La première fois, j'ai peut-être tiré une dizaine de grenades. Il y a des années que je n'ai pas tiré. Là. Ouais. En donné, je travaillais dans un bureau un peu, des fois, là, dans les fameux niaques. C'est le tir de C7 qu'on faisait. Là. Mais je me souviens de ma première grenade. Ça marque hein, quand même, parce que on t'a vu des films, on a vu tout ça. Puis là, t'as la grenade, elle sort du petit coffret là, avec une espèce de fond à l'intérieur. C'est, évidemment, c'est bien protégé. Mais lorsque la grenade sort complètement du coffret, là, tu comprendras qu'il te la donne, tu la tiens, puis là, il te donne un mot de commandement, puis tu tires la goupille.
Ouais.
Ben là, c'est 7 secondes si tu laisses aller la goupille, ou 6 ou 5, quelque chose comme ça.
T'as 7 secondes?
Ouais, mais là, tant que tu la tiens, t'es correct. Mais là, après ça, quand tu la lances.
Ouais.
Fait qu'il y a quand même une drill à respecter, c'est très sécuritaire. Des champs de tir sur la base de Valcartier pour ça. Puis c'est des trips, tu sais, tirer de la mitraillette, de la C6.
Mais même quand il te donne la grenade dans les mains, aussi, là, même quand il te donne la grenade dans les mains, tu dois pas la serrer trop fort.
Non, mais on sait pas comment la serrer.
T'as peur de
scraper
de quoi?
Puis là, tu prends pas des... Moi, il y avait pas de gants, pas rien. C'est vraiment à main nue.
Ouais.
Tu le tiens comme ça.
Mais même si t'avais des gants,
Pat. Tant que tu lâches pas... Non, mais t'as moins le feeling, j'imagine. En tout cas, la règle, c'était pas de gants. Puis là, même si tu... Tu sais, c'est comme... OK, t'as hâte de la lancer, là. Puis quand t'as la lance, c'est pas comme une balle de baseball. Il y a comme un balancement du corps. Tu prends le bras droit.
C'est par en dessous?
Ben, t'as le bras droit étendu.
Ouais.
Baisse le bras droit, monte le bras gauche. C'est comme en croix, là, vous imaginez.
Ouais.
Là, après ça, tu bascules le corps. Puis là, tu lances
la grenade.
Le plus loin possible. Et là, tu te penches. Puis il y a une fenêtre qui est blindée. Ben, pas blindée, mais une fenêtre là, qui est pour ça. Tu regardes la grenade exploser. C'est quand même impressionnant.
C'est un bon feeling.
Moi,
j'aurais pas confiance en personne. Moi, quand je vais au Capitale, il y a comme la mise, le lancer officiel. Là, Il y a tout le temps un qui tire tout croche, c'est le calvaire. T'as le catcheur qui est là, qui est bien centré. Finalement, ça arrive à 25 pieds à côté du catcheur. Tu veux-tu ce gars-là dans l'armée? T'sais? Tu veux pas, là?
Non, ça, c'est sûr. Puis imagine, tu la tires par en dessous, mais là, tu ta lance trop tôt. Fait qu'elle part vers le haut, puis elle redescend, puis elle te tombe dessus.
Non, tu veux
pas ça. Tu tripes pas tant.
Tu veux pas ça. Il y a Marie-Ève qui m'écrit. Salut la gang. Les tests dans les forces, c'est toujours obligatoire chaque année, mais mettons qu'on est indulgent avec certains corps de métier. Donc, voilà. Puis, mais tu sais, on voit ça aussi dans la police. Hein. Des fois, tu vois des policiers obèses, là. Tu sais, tu te dis, tabarouette, il est supposé de courir après des voleurs, là. C'est pas... Ben. Tu devrais plus te respecter que ça. Là. Si tu pèses 350 livres, t'es dans la police, là,
les interventions vont être difficiles,
Ça va être difficile. Rentrer, sortir de ton char aussi, ça va être difficile.
C'est sûr qu'ils te mettront pas dehors, mais il y a des programmes de remise en forme. Ouais. Il y a des, avant qu'ils te mettent dehors pour ton syndiqué, poids, tu comprends que... Non, mais même dans l'armée, là, c'est assez rare que des gens font mettre dehors parce que... Mais à un moment donné, à un an, deux ans, trois, il y a des programmes qui existent, puis si ça répond pas, au final, là, tu deviens non opérationnel.
Quand tes doigts tellement enflés que tu rentres même pas tes doigts dans la gâchette. Là.
Dans le goupille.
Dans le goupille. Non, mais c'est ça. On en voit souvent des policiers. Là. J'en ai vu, je veux pas trop en cibler, mais j'en ai vu quelques-uns pendant le Festival d'été de Québec qui faisaient la circulation il y a ça quelques années, puis je me disais... Hey, faut-tu courir après des voleurs? Tu peux pas courir, tu étais à peine capable de marcher. Je parlais avec Hugo Gérard, qui aussi est de forte corpulence. Lui, il a été policier à Gatineau.
Oui.
Hugo. Puis, il me parlait à quel point sa grosseur en tant qu'individu. Lui, c'est un monument, là, il est gros. Ah, oui. Je voulais pas dire monstre, mais tu sais, c'est un armoire à glace, Hugo. Puis là, je disais, mais quand tu sortais de ton char pour courir après les voleurs, qu'est-ce que tu faisais? Et je courais pas. Il était pas capable de courir, là. Il n'y avait plus de flexibilité. T'sais. Puis en même temps, à un moment donné, la police était un peu tannée d'Hugo parce qu'à chaque fois où il allait quelque part, c'était il y a des gens qui se rassemblaient autour pour lui parler de ses exploits d'homme fort. Et il était obligé d'abandonner la police parce qu'il était rendu une distraction pour son travail. Mais il aurait fait de la police longtemps, Hugo. Là.
Il était quoi? Pas tout à fait une dizaine d'années, dans les années 90. Là.
Puis j'ai regardé un documentaire sur les Navy Seals. Tu connais les Navy Seals, c'est les gars les ultras entraînés dans l'armée américaine. Puis, ils sont pas gros comme des gars qui vont faire le même sport qu'Hugo, là. Lever des grosses charges. Là. Les gars sont fonctionnels, sont flexibles, sont musclés, sont préparés aussi, à peu près à n'importe quoi.
Ouais. Faut qu'ils puissent faire de tout, pas le choix.
Mais, tu sais, ils sont capables de se gratter le dos, là.
Oui.
Tandis que quelqu'un qui s'entraîne beaucoup trop, qui est beaucoup trop musclé, ne sera jamais capable d'être opérationnel pour faire les exercices que les SEALs font. Fait que chaque métier a sa propre forme physique. Là, dans l'armée, comme on m'expliquait, c'est que bon, il y a des corps de métier, mais j'imagine que si tu travailles dans la cuisine, on n'est pas super demandant.
Quand j'étais au 22, 8-9 ans à peu près, là, c'est sûr que c'était plus demandant. On avait souvent, au-delà de ce qu'il fallait faire comme conformité, on avait aussi... dans l'année, plusieurs exercices. Au moment où ce que j'étais avec la logistique, bien là, c'était moins. On faisait ce qui était obligatoire des forces armées canadiennes une fois par année. Mais dépendamment des métiers de combat et des métiers, on disait les métiers mous, dont je faisais partie dans les dernières années, bien voilà. Puis après ça, moi, j'ai transféré dans la réserve pour m'en aller justement en affaires, puis l'immobilier, puis la gestion de patrimoine. Fait que c'est pour ça, là, des fois, les gens disent « T'as-tu fait l'armée ou t'as-tu fait... » Bien, j'ai fait les deux en même temps. Mais j'étais majoritairement réserviste. Là, dans le fond, les 11-12 dernières années, c'était réserviste à temps plein, par contre.
Mais tirer une grenade, ça doit être
un
beau
feeling. C'était les mêmes normes. Il fallait répondre aux mêmes normes. Mais oui, c'était un bon feeling, comme tirer du Carl Gustav aussi.
Ah ouais?
Bazooka! Ouais, ouais.
T'as tiré du bazooka?
Sauf l'arrière, dégagé, check! Ben oui, tiré du bazooka, j'ai tiré du mortier à 81 mm, 60 mm.
Quand
tu
tires du bazooka, y a-tu un gars qui est en arrière de toi pour tenir le recul? Ben oui, t'as pas le choix.
Ben lui, il est en arrière, tu sais, il te met une petite tape dans le dos. Puis,
parce qu'Arnold Schwarzenegger était capable de le faire là, dans son film Commando.
Il faisait tout seul, lui, hein?
Mais
ça?
Il était seul.
Vérifie les verrous du Venturi. Ça, je me souviens des petits mots de commandement comme ça qu'il fallait tirer. Puis j'ai tiré aussi du mistletoe. C'était pas le missile tôt, mais il y avait un autre missile, c'était philo-guidé. Ça, certains pourront écrire sur le texto. Ça fait une quinzaine d'années. C'est une expérience qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, ça doit exister d'une autre forme, mais c'était vraiment philo-guidé. Donc, on tirait une roquette, puis il y avait un petit fil là, qui suivait. Là. C'est, j'ai jamais compris, mais moi, j'ai participé à une expérience.
Okay.
C'était moi, pour le centre de recherche à
moi,
l'époque.
Moi, c'est les gars qui, quand tu vois ça, des films de guerre, là, les gars qui mettent le fameux mortier, là. Tu sais, le tir du mortier, là.
Oui.
Tu sais, ils rentrent dans le
tube.
Ils rentrent dans le canon, puis après ça, ils se bouchent les oreilles, puis ça part, là.
Dépendamment de ton inclinaison. C'est le principe un peu de l'artillerie, là. Tu calcules ton inclinaison selon ce que tu veux qui tombe avec tes grids, là, tes coordonnées sur le terrain. Ouais. 81 mm qui est plus gros. 60 mm, c'est les petits qui peuvent se traîner plus à l'épaule, là. Mais tu sais, t'as les M72 aussi.
Ah,
c'est, c'est comme l'équivalent d'un mini bazooka qui sert une fois jetable. Tu sais, que t'étires, là. Ça, on voit ça aussi dans bien des films, là.
Mais tout ce que tu nous parles, là, on peut vivre ça à Vegas en passant, là.
Oui.
Vegas, là, tu peux tirer n'importe quoi.
Non, mais s'il y a des jeunes, là, qui ont envie d'aller dans les forces, c'est une foutue belle expérience. Et c'est intéressant aussi financièrement parlant, tiens, pour plugger le nom de mon podcast. Mais c'est vraiment intéressant, l'armée, pour te mettre ça à map dans ben des sens du mot. Puis, regarde, tu cotises un fonds de pension. Si tu fais tout ton temps, parfait, tu auras certains avantages à l'autre bout. Mais du moins, c'est les expériences que tu vis. Je disais ça à Mathias tantôt. Tu sais, quand tu es en train d'apprendre, tu es en train de développer tes compétences, ta valeur augmente, bien, c'est ça, avant tout, avant de développer ta propre valeur nette au niveau financier, il faut que tu développes ta valeur personnelle. Tu sais, tes compétences, tu vaux combien, toi? Si je t'engage, tu vaux combien? Tu sais, c'est quoi ton potentiel?
Exact.
Qu'est-ce que tu peux me donner à une entreprise? Ou qu'est-ce que tu peux faire pour ta propre entreprise? L'impact que tu as sur tes clients, tout est là, dans le fond. C'est quelqu'un qui veut s'enrichir. Il faut qu'il y ait une valeur personnelle en partant.
Voilà. Pat Raymond, ex-gestionnaire de patrimoine, on fait une chronique finance. Tu voulais nous parler des vrais riches qui sont rares, plus rares qu'on peut penser.
Hey, vraiment, Yann, parce que tu vois, la semaine passée, Pascal reçoit beaucoup de questions là, lorsqu'on fait des chroniques. Mathias pourra peut-être en témoigner. On reçoit des questions. Puis là, j'ai dit à Pascal, c'est plate parce que souvent, les questions, on n'a pas le temps d'y répondre. Hein. Moi, j'ai une chronique de préparer. Fait que là, envoie-moi-en, dis-moi-les. Puis là, j'ai comme compilé ça pour arriver à éclaircir certaines questions, dont la semaine passée, on a parlé du fameux 4 % là, qui était des ménages canadiens qui étaient millionnaires et plus.
4 % seulement 4 % des Canadiens sont millionnaires.
Tu sais, il y en a qui pensent, là, ils disent, je gagne 120 000, je suis riche. Moi, je reçois plein de messages aussi là, avec mon podcast.
120 000,
tu
es dans 6 % de la population.
Ben, être riche, dans le fond, c'est ton patrimoine. T'sais, la richesse, c'est ton patrimoine.
Ouais.
Moi, je me suis pas pris 120 000 cette année.
Okay. Pour toi, là, le salaire définit pas de toi la personne que tu es, si tu es riche ou si tu es pauvre. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 120 000 par année, qui en dépensent 145 000 et qui n'auront jamais d'actifs.
Et la richesse, si tu gagnes 40 000 et tu en dépenses 37, ta richesse, c'est 3 000. Ta richesse, c'est la différence. C'est ce qui se bâtit entre-temps.
Ouais.
Et les fameux patrimoines. Fait que ta maison qui vaut 1 million, mais que tu viens de réhypothéquer à 800 000 d'hypothèque dessus, tu vaux 200 000. C'est quoi être millionnaire? Bien, il faut que tu vailles 1 million. C'est ça, c'est ça que des fois, les gens ne comprennent pas. Fait que c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes au final. Et qu'est-ce que tu fais avec ce que tu gardes? Parce que là, si tu le laisses dans un compte d'épargne... en argent, ou tu le laisses dans ton matelas, ou je sais pas, moi, tu le mets d'un CPG à 2 %, bien, ça donne pas grand-chose. Fait que là, après ça, c'est quoi tu fais avec ce que tu réussis à garder que tu vas faire développer? En fait, tu vas te bâtir un patrimoine. Donc, un millionnaire, par définition, ou un ménage millionnaire, c'est un ménage qui a 1 million. S'il vendait tout demain matin, paye ce qu'il doit, la différence, c'est 1 million. Fait que si tu as une maison à 1 million, tu n'es pas millionnaire. Et à la rigueur, si tu fais 1 million par année, mais que ça te coûte 1 million 2 avec la pension de l'ex puis les enfants, t'es pas millionnaire non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de millionnaires, parce qu'ils ont un patrimoine de 1 million et plus. Donc, c'est quand même assez rare. Peut-être pas se fier sur Instagram, finalement. Tu sais, il y avait une autre question ici. Il y a quelqu'un qui possède une maison, un auto, un CELI, son REER... est-il possiblement millionnaire? Bien, c'est juste si son actif dépasse le million. Puis on vient toujours à l'exemple de la fameuse maison. C'est une maison de 600 000. Tu viens de la refinancer, puis tu dois 450 000. Bien, tu as 150 000 de valeur nette. Donc, tu vaux 150 000. Tu n'es pas millionnaire encore. Tu sais, on pense qu'il y a beaucoup plus de millionnaires que ça, mais on a 500 000 ménages canadiens millionnaires en ce moment sur 40 millions de population. C'est 41 000 millions.
C'est normal que la plupart des gens que je connais qui sont millionnaires sont super endettés. C'est des bonnes dettes, là. Souvent, c'est des actifs, exemple, dans l'immobilier. Ouais. Là. C'est des gens qui valent beaucoup d'argent, mais dans leur poche, il n'y a jamais rien.
Ça n'a rien à voir avec la dette, parce que tu peux devoir... tu dois 5 millions, mais tu vaux 7 millions, ben t'es deux fois millionnaire. T'as 2 millions de valeur nette. Tu dois 10 millions, mais t'en vaux 20. Ben t'as 10 millions de valeur. Tu sais, c'est ça. C'est évidemment, les millionnaires, ça, c'est intéressant. Les millionnaires, ou même les ultra-riches, 25 millions et plus, les fortunes, etc., sont souvent très endettés parce qu'ils se servent énormément de la dette pour multiplier. Tu sais, de la bonne dette, tu multiplies ta richesse. Tu sais, on en a parlé à un moment donné, j'avais commencé dans l'immobilier dans vingtaine, tu sais, puis bon, à un moment donné, je devais énormément. Moi, je me souviens au moment où je devais, quoi, 1 million au moins, mais je me disais tout le temps, à chaque année, il y a du remboursement qui se fait. Puis dans 5 ans, puis dans 6 ans, puis dans 8 ans, puis dans 9 ans, c'est 1 million-là que je dois sur 2-3 immeubles à l'époque. ben ça prend de la valeur. Fait qu'à un moment donné, je ne dois plus 1 million, puis c'est rendu que ça vaut 1,5. Fait que là, je me retrouve avec 600 000, 700 000, 800 000. La valeur nette grossit.
Ouais.
Fait que c'est ça qui est intéressant. Elle est là, la richesse. Mais cette richesse-là, si tu apprends, ta dépense, tu ne l'as plus.
J'ai lu un livre, c'était pas Kiyosakis, c'était pas Robert Kiyosakis.
Kiyosaki.
C'était pas lui, mais c'était un gars qui fait à peu près la même affaire, puis il disait « Je suis devenu millionnaire parce que je suis le meilleur pour m'occuper de l'argent des autres à mon profit. »
Ah, oh, quand même.
C'est-à-dire que lui n'utilise jamais sa propre argent, utilise l'argent des institutions financières pour faire de l'argent.
Ah, OK. Oui, je comprends.
Il prend l'argent des autres, mais il n'utilise jamais son argent. Puis dans son livre, le principe, c'était « paye-toi en premier ».
C'est-tu le livre de Jacques Lépine, entre autres, dans l'immobilier?
C'était un Américain. Je,
que tu disais l'argent, pense... quand on dit on utilise l'argent des autres, c'est sûr que n'importe qui, Mathias est jeune, je prends l'exemple de Mathias, il est à côté de moi, puis je le prends comme exemple, il trouve un bon deal, il m'en parle. Puis il dit, garde, j'ai cet immeuble-là, puis j'ai l'exclusivité, j'ai tant d'heures, je dépose, une offre d'achat avec Simon, notre ami Simon Laberge, exemple. Mais tu n'as pas le cash. Fais-toi-en pas. Si ton deal est intéressant, on va trouver des investisseurs.
Ben
ça,
oui.
Ça se peut que sur le coup, le premier mois d'achat, là, tu ne feras pas une scène, puis ça se peut que dans 5 ans, tu n'auras pas encore fait une scène, mais ta valeur nette va grossir parce qu'à un moment donné, tu vas dire, ben moi, j'ai un pourcentage de cet immeuble-là, j'ai des avantages, c'est moi qui l'ai trouvé. T'sais, comme Luc Poirier. Il trouve des deals, puis après ça, il va chercher les investissements.
Il fait beaucoup de lotissements, lui. Il va aller acheter un terrain, puis là, il va vendre ça en lot. Puis ça devient extrêmement payant.
Il modifie l'actif.
Exact.
Puis il espère que certains règlements municipaux vont changer dans le temps. Puis il donne la valeur, puis il est capable de supporter. T'sais, c'est sûr que ça prend beaucoup de cash pour supporter, des fois en intérêt, ou il faut que tu supportes ces prêts-là avant de faire ton deal. Des fois, il faut que tu avances beaucoup de sous. Mais il y a toujours des investisseurs qui sont là. Alors, je reviens à les compétences du début quand tu es jeune, ton potentiel. Et surtout, ce qui est majeur, c'est la confiance qu'on peut avoir en toi. Cette fameuse confiance qu'on dit, bien, avec lui, j'embarque. Avec un autre, j'embarquerai pas. Pour le même montant, le même deal, avec lui, oui. Puis ça, la réputation que tu te développes, je te dirais que c'est ça qui est le plus payant. Puis en avançant en âge, bien, c'est sûr que là, tu dis, il n'y a pas de coche mal taillée, rendu à 50, 45, 50, 60. Christy, s'il y avait eu de quoi de croche pendant le temps qu'on l'aurait su, hein? Fait que là, ça devient encore plus attractif. Tu te fais offrir plein d'affaires, tu deviens attractif pour des gens d'affaires, tu te crées un réseau de contacts. Puis au départ, ça a peut-être juste commencé avec un deal que tu as dit oui dans vingtaine. Tu as acheté ton premier duplex, puis à un moment donné, tu avais une valeur, puis tu t'es accoté là-dessus. Puis des fois, tu peux avoir une job sûre, puis tu dis, je suis pas sûr de faire ça pendant 35 ans, mais présentement, ma job sûre me permet d'aller cogner dans des institutions financières avec une belle historique de crédit, une job sûre, tout va bien, parfait, l'historique 2 ans, super. Bien, tu peux embarquer dans un deal parce que tu deviens intéressant pour une institution financière, parce que tu as une bonne job sûre. puis tu te fais financer l'immeuble. Mais tu finances l'immeuble que tu vas louer par la suite. Pourquoi pas mettre le minimum de comptant à ce moment-là?
Oui.
Quand tu achètes ta maison personnelle, par contre, est-ce que ce serait peut-être mieux de mettre plus de comptant? Parce que les intérêts des premières années, c'est incroyable. Fait qu'on se pose des fois la question, on commence comment dans l'immobilier? Bien, on pourrait commencer peut-être avec un duplex, un triplex, rester dans un 4,5, mais valoir à chaque année un petit 30 000, 50 000 de plus parce que ton immeuble prend de la valeur.
Exact.
Puis qu'à un moment donné, tu disais, ça fait 5 ans, je suis dans mon 4,5, je vaux 250 000. Si je vendais l'immeuble demain matin, ouais, je rembourse, ça vaut 250 000.
Pat, tu ne peux pas donner de conseils financiers en ondes. C'est important de le rappeler aux auditeurs. Par contre, moi, je peux te poser des questions. Mettons que tu avais 50 ans, Pat, puis tu n'avais jamais cotisé dans des REER ou autres, CELI. À 50 ans, tu commences-tu à mettre du REER puis des fonds de la FTQ? Ce serait-tu une bonne chose pour commencer?
La FTQ, ils ont sorti leur rapport aujourd'hui, hein, puis c'était quand même assez bien. La FTQ, si on prend ça peut être le CELI, mais ça peut être aussi le REER, le fameux 5000, où on va avoir le crédit d'impôt, très intéressant. Tu sais, la FTQ, c'est bien que tu m'emmènes là-dessus. La FTQ, par exemple, tu mets 5 000, puis là, tu dis, bien, j'ai un retour d'impôt, comme bien du monde, là, autour de 1800, 2000, on va dire autour de pas loin de 40 pour faire un chiffron. Puis après ça, tu as tes crédits d'impôt qui sont, sauf erreur, autour de... Là, ça avait baissé un petit peu, puis justement, c'est pas autour de 30. Faisons un chiffron aussi. Fait que là, tu reçois 2 000 de retour d'impôt, puis 30 c'est 1500, ça, sur 5 000.
Ouais.
Fait que là, tu es rendu à 3500 dans le fond d'argent qui te revient sur le 5 000 que tu as avancé. Pour mettre 5 000, ça t'a coûté 1500.
Ça revient à ce que
c'est comme ça qu'on
je te
fait
mentionnais
l'argent.
Tantôt.
Ça, c'est une possibilité.
Le monsieur dans son livre qui dit « Moi, je suis devenu millionnaire parce que je suis passé maître dans l'utilisation de l'argent des autres. » Fait que là, toi, tu places 5 000 puis tu as un retour de 3 500 qui n'est pas ton cash à toi.
Là. Non, c'est puis cet argent-là qui te revient. Écoute, moi, dans mes stratégies, là, je dis bien « moi » dans mes stratégies, hein? On est au Québec, ici, c'était le temps de le dire. Mais on va dire moi, pour l'exemple. Mais moi, dans les stratégies, dans le fond, j'optimise toujours avec le même argent. Qu'est-ce qu'on peut faire comme différence? T'sais? C'est toujours avec le même argent. Ça se peut que de l'argent, tu n'en feras pas plus que ce que tu fais là. Mais comment qu'on peut optimiser? Hey, tu fais 80 000. C'est quoi la différence entre prendre un 10 000 de REER, prendre le retour, de le mettre dans le CELI ou dans le régime épargne-étude qui te redonne un autre 30 ou de tout dépenser?
Mm-hmm.
À partir du moment que tu dépenses tout, Yann, là, c'est que tu l'exposes au fisc.
Exact.
Parce que si tu dépenses tout, forcément, c'est de l'argent imposé. Par définition, des gens qui dépensent, ils dépensent de l'argent net. Fait que moi, je suis toujours surpris quand je vois du monde qui achète bien des bébelles. Tu dis soit qu'ils s'en foutent de dépenser de l'argent net puis le reste s'en va à l'impôt, ou l'argent a été fait de façon peut-être plus sombre. Mais bref, de l'argent, il faut optimiser ça. Puis dans toutes les stratégies, il n'y en a pas de fois où ce que tu peux flamber ton argent parce que tu ne sais jamais s'il te reste 30, 40, 50 ans à vivre. T'sais. Faudrait que j'aie au moins 10 millions pour que je puisse flamber un peu d'argent parce que sur 40 ans qu'il me reste à vivre, c'est peut-être pas tant que ça. Faut que tu
10
l'évalues.
10 millions, bon.
À 10 millions, peut-être que je flamberais une petite partie.
Ah, chaque fois que tu viens, tu me stresses.
Autrement, ça en prend tellement... pour la retraite, puis pour tout le reste aussi. Mais faites-vous des projets, pas juste la retraite, faites-vous des projets pour vous exciter dans la vie un peu, parce que des fois, ça devient plate un petit peu.
C'est vrai. Hier, tu as fait des projets avec ta famille, hier, tu es allé au village vacances dans le quartier.
Ben, hein? Oui, j'ai ma passe du village vacances, fait que vous allez me trouver des fois assis sur le bord de, la piscine à vagues, en train de lire des livres de Warren Buffett, puis là, je me pense dans le sud, puis j'entends les vagues, tout ça, puis je suis un peu en retraite dans le gazon.
Tu vas au village vacances dans le quartier pour lire des livres?
Oui, j'amène des fois des livres de Warren Buffett.
Va dans l'Everest avec tes enfants.
Mais non, mais eux autres, ils vont, sont jeunes. Toi, sont jeunes. Mais moi, ils sont rendus grands. Penses-tu qu'ils veulent m'avoir?
Non.
Ils veulent pas m'avoir. Ils veulent partir sur leur propre... Non, mais sérieusement, moi, j'ai rien à voir là, à part d'être disponible pour de la sécurité si jamais il arrive quelque chose.
Ouais, puis ça, une fois de temps en temps.
Fait que, je vais me rincer comme un petit mononcle. Je me rends jusqu'au costume de bain lousse, puis après ça, je ressens.
Hey, pas très
merci.
Bon pour les gens qui veulent en savoir plus sur le merveilleux monde de la finance. On te suit sur tes podcasts, Financièrement parlant, le podcast.
Financièrement parlant, je vais prendre des vacances cet été, puis finalement, là, plein de monde me sollicite, venez me jaser. Nous autres, c'est sous forme de conversation téléphonique. J'adore faire ça et j'apprends beaucoup à travers tous mes intervenants professionnels, mes experts qui viennent me jaser. Fait que voilà, Financièrement parlant, podcast.
Un gros merci, mon ami, puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne Saint-Jean ce soir.
Merci
et demain.
Vous aussi.
Ouais, Québec, on fête ça à soir. Montréal, c'est demain. Le show sur les plaines, les portes, on me dit qu'ils vont ouvrir à 18h30. parce qu'il va y avoir peut-être des orages ce soir. Donc, on va ouvrir ça vers 18h30. Merci, Mathias.
Merci.
On s'en reparle demain.
Yes. Non, après-demain.
Après-demain, c'est vrai.
On a congé.
Denis s'en vient avec Véro. Salut tout le monde. Il est...